métaphysique des cendres. C'est l'individu. Oui, viens. C'est vrai, s'il n'y avait que la personne spirituelle et immatérielle, il n'y aurait pas les cendres. Alors le symbolisme du corps exprimé par les cendres, l'individu exprimé par les cendres, tu es poussière, tu retournes en poussière. très logique. Brennan préférait sa conception. Elle est terminée de telle manière. Et vous comprenez que c'est pas ce terme qui est la ratio de l'individu, puisqu'il change. Donc, ce n'est ni la matière, pour chacun d'entre nous. La quantité apporte, comme on verra, le divisible. La divisibilité. On est quelqu'un d'unique, séparé des autres et unique en nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dira que la raison d'individuation, c'est bien la quantité. Ça, prenez les deux extrêmes et vous comprenez tout de suite alors. Ça ne peut pas être la matière, ça ne peut pas être la quantité figurée telle que elle est maintenant, quoi. Vous mesurez tant carte d'individuation, hein, au niveau identité politique. Vous mettez votre poids, vous mettrez votre taille. Bien ça, c'est la quantité terminée. C'est pas ça la raison d'individuation, parce que ça change. Ça, c'est vraiment accidentel. L'individu touche la substance et n'est pas la substance. Mais elle est, l'individu est substantiel, mais c'est pourtant pas la substance. C'est donc le premier moment du rayonnement de la substance dans l'ordre de la quantité. Dans l'ordre accidentel, dans l'ordre de ce qui me sépare de tous les autres. Et c'est pour ça que c'est vraiment la quantité qui apporte la divisibilité, qui est la ratio de l'individu. C'est très très calé, ça. Ça, c'est propre à saint Thomas. Je crois que c'était une... Je comprends très bien comment Aimé Forest fait à partir de là, en disant, saint Thomas, c'est la philosophie de l'individu. C'est celui qui a découvert ce que c'était que l'individu. C'est pas si mal. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est ce qui caractérise la philosophie de saint Thomas. C'est le philosophe de l'individu. Il a saisi ça. Dont Scott, qui vient après, juste après, Thomas d'Aquin, Henri de Gand, dont Scott, hein. N'oubliez jamais, c'est... Puis après, dont Scott, il y a Ockham. Après saint Thomas, dont Scott ne n'accepte pas cela, parce qu'il trouve que c'est beaucoup trop matériel. De dire que l'individu, c'est la quantité. C'est impossible pour lui. Ça doit venir donc de la cause formelle. La cause formelle poussée jusqu'au bout. Alors ce sera l'etcheitas. Alors pour lui, il y aura vraiment une forme individuelle. Alors s'il y a une forme individuelle, nous avons chacun une âme spéciale comme les anges. Et saint Thomas n'accepte pas ça, parce que il y a une unité d'espèce humaine qu'il faut sauver. L'homme engendre l'homme. Tandis que pour Don Scott, l'homme n'engendre pas l'homme. Puisque l'individu, c'est l'etcheitas, c'est l'âme. Il y a quelque chose là qui est très important, et alors transposez ça pour le mystère du Christ. Le Christ est parfaitement individué. individu me fait dépendre de mes parents. En tant qu'individu, je fais partie de, vous voyez, de l'espèce, de j'allais dire, je fais partie du corps spécifique de l'humanité. L'individu vient du d'en bas, et non pas d'en haut, si vous voulez, c'est peut-être ça qu'il faudrait mieux comprendre. Pour Don Scott, c'est l'âme, cause formelle. Donc, c'est l'âme qui spécifie la nature humaine, c'est l'âme dans son echeitas, c'est-à-dire son ultime pointe formelle, qui forme l'individu. Pour Saint Thomas, la ratio individuationis provient de la quantité. Donc ça vient d'en bas. Ça vient de l'atavisme. Ça vient des causes secondes qui sont les parents. L'individu me lie à mes parents. Et vous voyez, ça correspond bien alors à ce que la science découvre. Tandis que pour Don Scott, on voit beaucoup moins bien. De voir que l'individu vient de l'âme, alors au fond, là, il y a un vieux reste platonicien. De considérer la matière comme quelque chose d'assez extrinsèque. Alors, on me pose encore quelques petites questions sur cette question de l'individu. C'est bon d'y penser, le mercredi décembre, c'est la fête de l'individu, n'est-ce pas? Si je pousse la liturgie jusqu'au bout, c'est bien ça, monsieur. Puisque c'est la fête qui m'oblige de dire que je suis corruptible. Hein? Pas drôle, mais c'est comme ça. Et vous ne comprenez pas le mercredi décembre si vous ne voyez pas cette corruptibilité que vous portez en vous. L'odeur de la corruptibilité de la mort qu'on porte en soi. Conséquence du péché. Hein? Conséquence du péché. Ne disons pas que la mort c'est joyeux. Il y avait une conférence à Paris avec le docteur Joyeux qui disait que la mort pour lui, mais c'est la délivrance. Ouais, mais non, chrétiennement, il faut dire que la mort, c'est une peine. Que Dieu s'en sert pour en faire une délivrance. D'accord. C'est comme si on disait que la souffrance était joyeux. Mais non. Je ne veux pas dire que la souffrance est joyeux. Moi, je ne peux pas aimer la souffrance. J'aime l'amour du Christ qui transforme la souffrance. Mais j'aime pas la souffrance du tout. Faut pas aimer la souffrance. C'est un peu de sadisme, ça. Faut pas rechercher la souffrance. On aime l'amour divin qui est victorieux de la souffrance et qui la transforme. On aime l'amour du Christ qui transforme la mort en vue de la gloire. Je peux pas aimer la mort, quoi. Naturellement, je peux pas l'aimer, c'est une peine. Bon, et ça, c'est le réalisme de la théologie chrétienne. C'est la conséquence du péché, la mort. Et donc, que nous portions en nous ce germe de mort par la corruptibilité de notre individu. Alors, ce serait très intéressant de voir que le germe de la mort, vous voyez, touche l'individu. La mort n'est pas au niveau substantiel, c'est impossible. Puisque la mort, c'est un principe de division. Où se situe en nous le point de départ de la division? C'est la ratio individuationis. C'est la raison d'individuation, qui est la quantité. La quantité porte en elle la possibilité de la mort. S'il n'y avait pas la quantité, il n'y aurait pas la possibilité de la mort. Il faut aller jusque-là, si on veut. Parce que on dit tout le temps c'est le corps, et ça c'est pas précis du tout. Il faut préciser où est le germe. Alors, conséquence du péché, hein. La conséquence du péché, c'est de faire que ce germe s'actue. Un jour on mourra. On le sait. Sauf si Jésus arrive avant. C'est la seule possibilité d'y échapper. Un jour on mourra. Et on porte en nous ça. Alors il faut voir où on le porte. Et vous n'avez aucun pouvoir sur votre quantité. Oui, vous avez un pouvoir sur la quantité terminée. Vous pouvez faire une... Pendant le carême, un moment d'amaigrissement. Vous pesez avant le carême, et puis vous pesez après le carême. Bon carême, j'ai perdu 10 kilos. Bon carême. Alors là, vous pesez la bonté du carême en fonction du poids. C'est très quantitatif. Tandis que bon carême, si vous avez offert votre vie, ah oui, si vous avez compris que cette conséquence du péché qui est la mort, vous l'avez mise dans la mort du Christ. Et que dans la mort du Christ, alors, elle est transformée. Mais c'est par Jésus. J'aime la souffrance à cause du Christ. J'aime la mort à cause du Christ. Donc c'est le Christ que j'aime, c'est pas la souffrance ni la mort. Alors, petite question. Pouvez-vous expliquer ce que signifie aliquide quand ça parle de l'individuation? Qu'est-ce que le niveau transcendantal? Oui. Alors, faisons attention. Et ça, c'est très bien de poser la question. Je vous renvoie à un lieu bien connu. De Veritate. Question disputée. Hein. De Veritate. Question 1. Article 1. Vous devez avoir une traduction à la bibliothèque. Si vous n'avez pas encore de traduction, parce que ça, il faut tout savoir, méditez ça. Question 1, article 1. C'est là où Saint Thomas nous donne, dans une vision très simple, les transcendentaux. La réduction des transcendentaux à la ratio. Ce que c'est que la ratio mentis, en montrant que la res, aliquide, verum, bonum, sont les cinq transcendentaux. C'est très très curieux. Et si nous voulons comprendre ce passage de Saint Thomas, nous voyons comment ces rationes sont convertibles avec la ratio et 10. Depuis Suarez, j'ai fait l'enquête, hein. Depuis Suarez, on commence la métaphysique thomiste par les transcendentaux. Quand j'enseignais au Saulgeois, j'enseignais avec le père Geiger, et le père Geiger commençait par les transcendentaux. J'arrivais, j'enseignais la substance, en disant, vous avez eu d'abord le dessert. Les transcendentaux, est-ce que j'ai l'expérience des transcendentaux? Non. Les transcendentaux sont les rationes que je ne peux découvrir que dans une perspective critique. Le concept d'être, c'est le rationnel. L'intelligibilité de l'être, l'intelligibilité de res, unum, aliquid, verum, bonum, se ramènent tous à la ratio de 10. Bon, ça c'est une perspective critique. C'est ce qu'il y a de plus beau en critique. Je vois que l'intelligence humaine, en saisissant ce qui est, en appréhendant ce qui est, hence, nécessairement, dans la signification propre de hence, de ce qui est, saisit en acte la signification de res, unum, aliquid, verum, bonum. Ce concept d'être contient en acte la signification de res. Res, ça vient d'Avicenne. Unum, ça vient d'Aristote. Aliquid, ça vient d'Aristote. Verum et bonum aussi, mais aussi de Saint-Augustin. C'est pour ça que Albert le Grand dira que Verum et Bonum viennent des pères de l'Église et Res et Unum viennent des philosophes. Et Albert le Grand ne parle pas d'aliquid. Donc aliquid est quelque chose de tout à fait propre à saint Thomas. C'est intéressant de voir ces deux pointes propres à saint Thomas, aliquid et l'individu. Il faut toujours saisir comme ça les extrêmes, parce que ça aide beaucoup à comprendre le reste. Parmi les transcendentaux, ça a été étudié ça très bref, historiquement. C'est très intéressant, du reste. C'est très intéressant de voir que aliquid, c'est le propre de saint Thomas. Avant saint Thomas, on donnait quatre transcendentaux. Saint Thomas en a ajouté un cinquième. Qui tout se ramène à la ratio de 10. Alors, si on essaie de comprendre cela, nécessairement, ces rationnels ont été saisis dans un jugement. Et dans un jugement philosophique au niveau de l'être, puisque ça se ramène à la ratio de 10. Et donc, on doit chercher quels sont les différents principes qui me donnent cela. Saint Thomas le fait pas. Mais si je veux comprendre saint Thomas, je suis obligé de le faire. Autrement, je répète saint Thomas, je comprends rien. Je vois que res correspond à la saisie de la substance. Principe propre de ce qui est selon la forme. Et en saisissant la substance inductivement, par l'induction, en saisissant la substance, je saisis la détermination fondamentale de ce qui est. Res. Unum. C'est une propriété. De ce qui est, selon Aristote. Unum, c'est l'acolyte. C'est l'acolyte. Alors l'acolyte, il court toujours après. Surtout quand il est en retard. Alors il court après, ça. L'acolyte, vous découvrez l'acolyte quand il est en retard. Ce qu'il court après, c'est... Et ça, c'est Unum. Dès qu'il y a quelque chose qui existe, il est un. Tout ce qui est un. Aliquid, c'est ce qui est indivisé. Et ce qui est indivisé en soi et ce qui est distinct des autres. Alors, aliquid provient de la saisie du principe propre. Selon la fin. C'est-à-dire l'être en acte. Alors je comprends très bien comment saint Thomas jeunesse se fonde en philosophie par la saisie des principes propres, la propriété. Alors, aliquid signifie au plan critique l'intelligibilité propre de l'être en acte. Au plan critique, c'est l'intelligibilité propre de l'être en acte. Mais je peux très bien comprendre aliquid au niveau existentiel. Au niveau existentiel, aliquid, c'est l'individu. Autrement dit, comme res peut être saisi au niveau de l'expérience, peut-être saisi comme propriété de tout ce qui est, et peut-être saisi aussi au niveau proprement transcendantal. Aliquid peut-être saisi au niveau transcendantal comme la raison d'intelligibilité fondamentale de ce qui est en acte, et peut-être saisi au niveau tout simplement de l'expérience. Je me saisis comme un individu. Je suis. Je suis individu en moi et distinct des autres. C'est pour ça que je peux dire que les deux extrêmes de toute la philosophie de saint Thomas, c'est l'individu. Saisir la ratio individuationniste. Et aliquid au niveau transcendantal. Je saisis les deux extrêmes de la philosophie de saint Thomas en faisant ça. Et tout ça repose sur la saisie philosophique, métaphysique de l'être en acte. L'être en acte, où est-ce que vous le saisissez? Mais dans le singulier qui existe. Vous ne saisissez pas l'être en acte en réfléchissant sur votre pensée. Dans votre pensée, vous saisissez des êtres possibles, des quidités. Et l'être en acte, c'est le petit caillou qui existe. Ce petit individu, il vous transcende. Il a quelque chose que vous n'avez pas. Il est en acte. Et en tant qu'il est en acte, c'est ce petit individu. Ce tout petit individu, et c'est le petit caillou qui fait dégringoler la statue de Nabucodonosor au pied d'argile. Ce petit caillou qui dérégole comme ça. Qui montre qu'il y a l'individu qui résiste à toutes les idées. La statue de Nabucodonosor, les idéologies. Au pied d'argile. Parce que justement, ça ne repose que sur les idées. Ça ne repose pas sur la réalité existante. L'individu, c'est la réalité existante. Qui vous transcende. Il y a quelque chose en elle qui vous transcende complètement, qui vous dépasse complètement. Alors vous voyez, c'est très beau de voir aliquid à un niveau très simple, de le voir au niveau de la réalité existante. Vous avez l'expérience de l'individu, du singulier, en vous-même, et puis dans la réalité. Quand vous touchez un petit caillou, c'est individuel, ça. C'est unique. Il faut avoir ce sens de l'individu qui me transcende, qui est quelque chose d'extrinsèque à moi. Et puis vous avez aliquid au niveau métaphysique, l'intelligibilité de l'être en acte. C'est la suprême intelligibilité que j'ai, aliquid. Puisqu'au fond, Féro et Bonhomme ne sont que des modes particuliers de l'être en acte. Donc c'est l'être en acte qui est quelque chose d'ultime. Au point de vue au point de vue de l'intelligibilité, mon intelligence, quand elle saisit l'être en acte, saisit la cause selon la fin de ce qui est. On ne peut pas aller plus loin. cette ratio individuationniste, dans cette réalité existante, impliquant la quantité. Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que ça, ce serait une autre question de critique, tu vois. Qu'est-ce qu'on saisit d'abord? Est-ce qu'on saisit d'abord le petit individu, comme individu, ou d'abord la ratio, actus, la liquide transcendantale? Bien, il faut saisir le singulier dans sa singularité pour saisir la liquide transcendantale. C'est sûr. À l'individu, au point de vue philosophique. Et l'individu, vous le saisissez dans le jugement d'existence. Vous ne pouvez pas le saisir autre part. N'est-ce pas déjà la personne qu'on atteint quand on regarde l'individu? Attention. Quand je dis je suis, la personne est présente, c'est sûr. Mais je suis, je peux mettre l'accent sur ce qu'il y a d'individuel en moi. Et puis je peux mettre l'accent sur la suprême intériorité qui est en moi. Alors c'est très vrai. Individu et personne s'identifient dans le je suis. Mais cependant, au niveau des rationes, ce n'est pas la même chose. Au niveau des rationes, l'individu exprime ce qu'il y a d'ultime dans l'être en acte. Personne exprime évidemment le point de vue de l'existence, mais elle met l'accent sur la dignité de l'être, sur cet être qui existe dans l'esprit, impliquant l'esprit. L'individu n'explique pas, n'implique pas l'esprit, puisque je peux le trouver dans le petit caillou. Tandis que je ne trouve pas la personne dans le petit caillou. La personne vous la découvrez en vous, en réfléchissant sur votre esprit. Et vous découvrez la dignité de la personne qu'à partir de votre intelligence qui recherche la vérité. Si votre intelligence n'a jamais recherché la vérité, vous n'avez pas encore saisi la dignité de la personne. Si votre cœur et votre volonté ne recherchent pas le bien et le bonheur, vous n'avez pas encore saisi ce que c'était que la personne. Je ne saisis la personne qu'à partir de mon appétit de vérité et que par ma soif de bonheur et d'aimer. Alors vous saisissez la dignité de la personne. Mais l'individu, vous saisissez tout de suite. Il suffit de vous marcher sur le pied, sur votre pied, pour dire « Ah, j'ai un corps qui n'est pas encore de la poussière. Respecte mon corps. Quand tu seras de la poussière, tu pourras marcher dessus. » Oui, et c'est vrai. Dans le métro, quand il y a beaucoup de monde, vous avez envie de dire « Respecte mes doigts de pied. » Dites-moi « Respecte ma personne. » Non, « Respecte mon individu. » J'ai le droit d'avoir une petite place au milieu des autres. Ça, c'est l'individu. Alors, enfin, ne serait-ce pas plutôt les transcendentaux, res et unum, qu'il faudrait prendre plutôt qu'un liquide pour l'individu? Non, c'est vraiment un liquide. Parce que res, c'est la substance, unum, c'est la propriété, c'est très bien, mais ça n'exprime pas ce qu'il y a d'ultime dans l'acte d'être. Ce qu'il y a d'ultime dans l'acte d'être, et c'est là où par rapport à moi-même, où mon âme subsiste. Mon âme subsiste dans la quantité d'extraordinaire. La quantité, c'est pas énorme au point de vue. subsiste pas avant, elle subsiste toujours dans un individu. Donc, par la quantité, ne peut pas subsister autrement. Et le dernier arrachement par la mort, c'est la division qui se fait par la quantité. Alors, il y a séparation de l'âme et du corps par la quantité. C'est l'heure. Encore combien de temps? Encore 5 minutes. Très bien. Après l'individu, se pose maintenant un nouveau problème métaphysique. Vous allez comprendre. Je reviens à ce que nous avons saisi. L'induction de Lucia. Quand je saisis inductivement la substance, je la saisis comme principe propre. Et en même temps que je la saisis comme principe propre, je la sépare, je la distingue de toutes les autres déterminations. Maintenant.